Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le thème des collectivités et du logiciel libre. Nous poursuivons en effet nos retours d'expérience avec aujourd'hui Claudine Chassagne, adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-d'Uriage en Isère, en charge entre autres du numérique. On va vérifier que Claudine, est avec nous. Est-ce que tu es bien là?
Oui, bonjour.
Bonjour Claudine. Alors n'hésitez pas, si vous avez souhaité participer à cet échange, à vous connecter sur le salon web de l'émission. Vous allez sur le site causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez sur le salon web consacré à l'émission. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous donc Claudine Chassagne, qui va nous parler un petit peu du retour d'expérience de la commune de Saint-Martin-d'Uriage concernant le logiciel libre. Mais déjà une première question personnelle, une petite présentation de ton parcours et de ton arrivée en fait à la commune de Saint-Martin-d'Uriage.
Oui, donc, alors moi je suis ingénieure informatique, informaticienne de formation, hein, mais c'est une formation qui, je suis sortie de l'école en 1976, donc autant dire que je suis un dinosaure de l'informatique. Et ensuite, comme métier, j'ai été directrice des systèmes d'information à l'Université de Grenoble et puis après au Conseil général de l'Isère. Et en même temps aussi professeure associée à l'université et formatrice au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, que connaissent bien les agents des collectivités. Voilà, et depuis 2014, je suis élue en charge, alors entre autres, du numérique sur la commune de Saint-Martin-d'Uriage.
Alors la commune de Saint-Martin-d'Uriage, donc c'est en Isère. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres déjà pour qu'on sache si c'est une grande commune, une petite commune, en termes donc d'habitants et d'habitantes, et puis de personnes qui travaillent au sein de la collectivité?
Oui, alors bon, c'est une commune qui est c'est une commune périurbaine de l'agglomération grenobloise. Elle est dans le bassin grenoblois, bien qu'elle n'appartienne pas, elle ne fasse pas partie de la métropole grenobloise. Elle a un peu son identité Grésivaudan, communauté de communes du Grésivaudan, qui est un peu différente. Donc c'est une commune qui a 5600 habitants. C'est une station thermale et touristique. Hein, tout le monde connaît les crèmes Uriage. Et bien elles sont fabriquées à partir de l'eau d'Uriage, en fait, et qui permet d'alimenter la station thermale. Et c'est une commune de montagne, c'est-à-dire elle s'étend entre 300 et 1200 mètres. Hein, donc elle monte assez haut en dessous de Champs-Rousses. Pour gérer les services de la commune, donc la mairie comporte à peu près 150 agents, ce qui veut dire à peu près 120 temps plein, hein, parce qu'il y a beaucoup de temps partiel dans les écoles, bien sûr. Et donc pour gérer l'informatique, et bien il y a un responsable des systèmes d'information et qui est aidé actuellement d'un apprenti en licence informatique.
D'accord, donc ça nous positionne très bien la commune et ça va nous permettre de comparer par rapport à d'autres expériences qu'on a pu faire par exemple avec la ville de Paris ou même avec la ville de Grenoble. Alors comme tu l'as dit, tu es en charge notamment du numérique. Tu es adjointe au maire donc depuis 2014, hein, les élections municipales, donc pas les dernières, celles d'avant 2014, et dans lequel en fait dès les élections il y avait dans le programme politique de l'équipe candidate cette priorité au logiciel libre. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour quelles raisons finalement il y avait cet engagement, ce projet de migration vers les logiciels libres, cette priorité aux logiciels libres, et quels sont les enjeux qui ont motivé ce choix pour l'équipe candidate qui ensuite a été élue?
Oui, alors effectivement, c'est moi qui suis arrivée un peu avec cette idée des logiciels libres, puisque ça fait longtemps que je suis sensibilisée, hein, au niveau du Conseil général. Donc j'avais déjà mis en place une stratégie, j'étais alors directrice des systèmes d'information, donc du côté agent. Pour moi, c'était un enjeu politique, hein, qu'il fallait porter, donc qui a été inscrit dans le programme. Donc il a fallu convaincre les élus, mais ça a été relativement facile, de l'équipe municipale, et le maire était tout à fait aussi favorable. Donc on a inscrit cette politique de recours au logiciel libre dans le programme. Alors il faut dire qu'à ce moment-là, c'était aussi au moment où la région Rhône-Alpes avait des élus qui s'étaient beaucoup mobilisés sur le logiciel libre. Et donc on s'est inspiré un peu de ce qu'ils avaient fait au niveau délibération.
Oui, c'était une délibération qui avait été faite effectivement notamment par Jean-Marie Chausson, si je me souviens
voilà,
bien.
Voilà, tout à fait. Jean-Marie, d'accord, qui avait fait ça. Et donc on s'est complètement inspiré de cette délibération pour ensuite démarrer une fois que nous avons été élus en 2014.
D'accord. Et donc, quels ont été les points forts, enfin, pas les points forts, les enjeux mis en avant dans ta conviction par rapport à tes collègues de l'équipe candidate? Et donc, pour quelles raisons, finalement, cet engagement en faveur du logiciel libre?
Alors, en 2014, parce que ça, justement, on viendra après en 2020, c'était un petit peu différent en 2020, mais en 2014, c'était vraiment un enjeu politique fort d'indépendance technologique, c'est-à-dire ne plus être tributaire du monopole qui était exercé par ce qu'on appelle les GAFAM, hein, les acteurs économiques qui sont Google, Amazon, Facebook, Apple et
Microsoft.
Microsoft. Donc, c'était pour acquérir une indépendance technologique vis-à-vis de ces acteurs. Alors, à la fois par rapport à la protection des données et au risque d'exploitation des données, et à la fois par rapport aussi notre système d'information, parce que on était quand même pieds et poings liés avec Microsoft. Donc, il y avait cette idée, cet enjeu politique très fort au départ, de reprendre la maîtrise de nos logiciels et de nos données. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté numérique, donc c'était un petit peu ça au départ. C'était vraiment de pouvoir être maître de nos logiciels et de nos données, de ne pas subir justement les contraintes de ces acteurs.
Et donc, et les contraintes, les choix que finalement ces acteurs vous imposent au détriment de vos propres choix politiques ou du choix de l'intérêt général, en fait. C'est ça.
Voilà, tout à fait. Tout à fait, et on voit bien un petit peu les dérives aujourd'hui, parce que bah, typiquement par le marché là, de l'éducation nationale, qui est obligé justement de poursuivre dans cette lancée par rapport à l'acteur actuel qui est Microsoft, parce que c'est très très difficile de reprendre la main, et donc voilà, comment dire, une dépendance. Qui a pas mal d'impact au niveau politique, au niveau technique, au niveau sociétal pour moi.
Oui, on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission et on renverra notamment les auditeurs et auditrices au cas de l'éducation nationale et aussi au cas encore plus emblématique du ministère de la Défense avec son fameux contrat Open Bar Microsoft Défense qui a été signé, si je me souviens bien, en 2009 et qui est toujours actif, qui a renouvelé tous les 4 ans et parce que le ministère de la Défense n'a pas le temps de se sortir de ce piège Microsoft. Donc ça, c'est le premier point, on va dire, donc souveraineté, reprendre la maîtrise des logiciels et des données. Il y a aussi un point sans doute qui a joué, c'est la partie peut-être mutualisation, parce que dans le logiciel libre et les collectivités, souvent on apporte l'aspect économique sous la forme de la mutualisation entre communes. Donc ça, est-ce que ça a été un argument que tu as mis en avant, que l'équipe candidate a mis en avant?
Alors oui, tout à fait. C'est le deuxième argument fort parce que et qui a un impact économique assez ou financier assez fort sur les collectivités, hein, c'est que il y a un peu plus de 36 000 communes en France qui ont les mêmes missions et qui vont séparément contractualiser avec leurs prestataires pour gérer ces missions. Je prends par exemple comme exemple, le logiciel de gestion des cimetières. Toutes les communes sont confrontées à cette mission de gérer le cimetière. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un logiciel libre, hein, développé pour les collectivités, qui peut être mutualisé. Et pour nous, ça, c'était important de nous inscrire dans ce mouvement-là. Alors, soit de pouvoir prendre justement des logiciels libres qui sont aujourd'hui développés pour ces missions, soit aussi d'essayer de se regrouper avec d'autres communes pour développer un logiciel qui corresponde à ces missions ou pour faire ensemble quelque chose qui est inutile maintenant et qu'on ne peut plus faire tout seul, quoi. Voilà.
Oui, cet aspect mutualisation et effectivement, plutôt que de chacun dépenser dans son coin quelques milliers d'euros dans des solutions privatrices, se regrouper pour financer du développement du logiciel libre. Et donc, le logiciel dont tu parlais, c'est de mémoire, il doit s'appeler Open Cimetière et il fait partie
Voilà,
de
tout à fait.
l'ensemble des logiciels libres Open Mairie, dans lequel il y a, si je me souviens, alors je ne me souviens plus du nombre de structures, mais il y a à la fois des collectivités, des entreprises qui développent du logiciel libre pour développer des logiciels libres pour les collectivités territoriales.
Voilà, pour assurer les missions des collectivités. Ça peut être la gestion des élections, la gestion des cimetières, voilà. Et donc les collectivités peuvent prendre ces logiciels puisqu'ils sont libres, les choisir, et puis après, éventuellement, soit mettre en concurrence un prestataire pour la maintenance, soit le faire en régie. Voilà.
D'accord. Ce qu'on appelle en régie, c'est qu'en fait, une société externe délègue du personnel dans la collectivité à temps plein pendant plusieurs mois pour travailler sur le système d'information. C'est bien ça?
Alors ça, c'est dans les grandes collectivités. D'accord. Dans les petites collectivités, ce qu'on appelle en régie, en général, c'est qu'on a un agent et c'est lui qui le fait, quoi.
Ah d'accord, ok, alors ça n'a rien à voir. Donc j'ai bien fait de poser la question.
Mais ça dépend de quel point de vue on se place. C'est vrai qu'il y a deux univers un peu différents entre les grandes collectivités et les petites collectivités.
Oui, tout à fait. Dans la préparation, tu m'as parlé aussi d'un autre argument qui est l'aspect sociétal, la coopération et la réutilisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet enjeu?
Alors oui, parce que en fait, jusque-là, on gère des projets d'une façon assez classique, c'est-à-dire on définit les besoins, on passe en marché, et puis après, ça correspond plus ou moins et on adapte sur le terrain. Et là, ce que nous souhaitions faire justement, et que les logiciels libres nous permettent de le faire, c'est d'associer d'autres acteurs, par exemple à la définition des besoins. Je prends par exemple le portail famille pour les usagers. À ce moment-là, c'est travailler avec les usagers pour définir les besoins avec eux, mais travailler aussi avec d'autres acteurs qui peuvent être des experts ou des entreprises, et pour essayer de définir des besoins et de coller au mieux à ce qu'on veut faire, et après, éventuellement, le faire développer. Et ça, c'est les logiciels libres nous permettent de le faire. Bon, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé, on a ce projet, hein, effectivement, de travailler comme ça, mais ça implique de gros changements, hein, au niveau des agents, puis au niveau des élus. Et donc là, c'est un travail un petit peu de longue haleine pour essayer de mettre tout ça en place. Mais c'est effectivement cet enjeu de travailler avec des nouvelles méthodes qu'on appelle l'innovation ouverte, et qui nous permettent de mettre des projets au point petit à petit, quoi, et avec les usagers et avec d'autres acteurs.
Sous une forme,
ou avec d'autres communes.
Sous une forme, quand tu parles petit à petit, sous une forme d'agilité, comme on a pu déjà l'évoquer.
Voilà, tout à fait, avec des méthodes agiles. Tout à fait, c'est méthodes agiles et innovation ouverte, c'est-à-dire on associe d'autres acteurs et on a des méthodes à petits pas qui nous permettent d'avancer, de construire progressivement, voilà, les besoins.
En fait, c'est pour impliquer les personnes utilisatrices de vos logiciels ou en tout cas de vos solutions pour permettre finalement qu'elles correspondent à ce qui est vraiment attendu plutôt que de livrer Absolument. Quelque chose qui finalement ne correspond pas à ce qui est attendu parce qu'on n'a pas pris en compte les besoins des habitants et des habitantes, c'est bien ça?
Tout à fait.
D'accord.
C'est exactement ça.
Alors sur l'agilité, je renvoie aussi à un podcast de l'émission Libre à vous. Je ne sais plus quelle date c'était, mais vous allez sur causecommune.fm et vous trouverez ça avec Alexis Monville. Donc on a parlé donc politique, économique avec la mutualisation, sociétale, mais souvent aussi il y a une raison qui est mise en avant, c'est la raison technique. Et on parle souvent de termes comme l'interopérabilité, les formats ouverts. Est-ce que ça a été un critère de choix?
Ah ben complètement, parce que justement, ce qu'on cherchait à faire, c'était de construire un système d'information qui ne soit pas une boîte noire, qui ne soit pas constitué de boîtes noires, mais qui soit constitué de modules qui puissent communiquer entre eux. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'éviter ce qu'on appelle le plat de spaghetti, c'est-à-dire qu'on met des boîtes noires et après, lorsqu'on veut les faire communiquer, on développe des interfaces entre ces boîtes noires et finalement, on arrive à des tas d'interfaces et à un plat de spaghetti. Et donc, du coup, ce qu'on cherchait à faire, c'était effectivement d'avoir un système d'information qui soit construit par module, qui puisse communiquer entre eux. Et qui dit communiquer entre eux, disent qu'ils parlent le même langage, c'est-à-dire qu'ils répondent au format ouvert, c'est-à-dire ce qui peut permettre de communiquer entre eux. Hein, je prends toujours l'exemple des prises électriques. C'était aujourd'hui les prises électriques, on peut aller n'importe où et on branche sa prise et ça marche. Donc on parle le même langage. Et dans le système d'information, c'était un peu ce qu'on cherchait à faire. Et pour ça, on avait besoin de reposer sur de la normalisation et des formats ouverts. Et c'est effectivement l'enjeu technique qui a été assez important avec l'enjeu politique au départ, c'est-à-dire d'essayer d'urbaniser ce système d'information. Voilà.
D'accord. Donc on a bien compris ces quatre grands enjeux, hein, politique, économique, mutualisation, sociétal et puis technique. Donc ça, c'est en 2014, donc avec une délibération qui indique le recours à la priorité au logiciel libre. Donc est-ce qu'il y a eu un soutien de l'équipe candidate? Visiblement oui, vu que c'était dans la feuille de route quelque part de l'équipe candidate. Mais est-ce qu'au niveau des gens qui travaillaient pour la collectivité, donc tu as parlé tout à l'heure du directeur des systèmes d'information, Et on peut aussi penser au directeur. Alors, je ne sais pas si vous avez un directeur général ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'au niveau, voilà, des gens qui travaillent dans la collectivité, comment ça a été accueilli cette annonce de « on va migrer progressivement vers le logiciel libre » ?
Alors, d'abord, le technicien qui était en place avait déjà mis en place des petits logiciels libres. Souvent, c'est le cas dans les collectivités, dans les petites communes. Il y a des petits bouts de logiciels libres qui sont un peu la volonté du technicien informatique, en fait. Donc, nous, on était dans ce cas-là, sauf que ce technicien est parti peu de temps après parce que, justement, il en avait assez de pas avoir de soutien politique. Donc, il est parti au mauvais moment, mais tant pis. Et donc, on a recruté un technicien donc, qui est devenu notre RSI, qui ne connaissait rien du tout du logiciel.
RSI, c'est quoi, RSI ?
Et qui a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qui s'est impliqué complètement et puis qui s'est investi là-dedans et qui est devenu vraiment une force de proposition au niveau technique. Voilà, donc et pourtant il n'y connaissait rien au départ. Et pareil pour la Direction Générale des Services. C'est pareil, il a soutenu, alors là aussi c'est pareil, on a eu d'abord une DGS qui soutenait le projet, puis après qui est parti, un DGS qui est arrivé et qui lui aussi a soutenu le projet. Et ça c'est vraiment important, je pense que je dis toujours que c'est un tabouret à 3 pieds ou à 4 pieds, ça dépend l'importance de la collectivité, mais ce qui est important c'est d'avoir un élu qui porte le programme et de préférence un élu soutenu par le maire, le DGS et le DSI ou le RSI. Il faut vraiment qu'il y ait ces trois soutiens pour que ça fonctionne dans le temps et dans la durée et que ça s'essouffle pas. Parce que souvent on a des techniciens, comme je le disais, mais souvent ça s'essouffle parce que c'est pas relayé par l'administration.
D'accord, on va rappeler que DGS, donc la Direction Générale des Services, et RSI, je suppose que c'est responsable du système d'information ?
Oui.
D'accord.
Nous, on appelle RSI parce que mais c'est un DSI,
d'accord.
Mais sauf qu'il est tout seul.
Voilà, donc... c'est pour ça. Non, mais je comprends qu'effectivement, diriger une structure où il est tout seul, bon, des fois, c'est compliqué de se diriger tout seul. Mais bon, mais c'est important de noter que même quand on a une petite structure, bah, finalement, au niveau informatique, une seule personne, comme tu l'as dit, aidée par un apprenti, on peut faire un plan de migration vers le logiciel libre, comme on va le voir ensuite dans les étapes. Donc toujours bon, 2014 en tout cas au début, tout à l'heure tu as parlé de mutualisation entre communes, quand on parle de mutualisation dans les collectivités logiciels libres, il y a forcément le nom d'une association qui arrive sur la table, c'est l'association Adulact, donc l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales, adulact.org. Et donc, est-ce que l'adhésion de Saint-Martin-d'Uriage à l'Adulact a été immédiate? Et si oui, pour quelles raisons? Voilà, où s'en est les relations justement entre la commune et l'Adulact?
Alors, l'Adulact, alors je suis arrivée moi aussi avec cette connaissance de l'Adulact, parce que l'Adulact existe depuis 2003, et donc moi j'ai participé dès le départ, quand j'étais à ce moment-là au Conseil Général, j'ai participé dès le départ au Conseil d'administration. Donc c'était une idée forte de se dire qu'il y avait une association qui aidait les collectivités, et donc forcément il fallait y aller. Et donc c'est dans la délibération politique, la délibération cadre, qui a fixé le recours au logiciel libre et qui en même temps a préconisé, enfin a fait voter l'adhésion de la commune à cette association, donc fin 2014, et en même temps a mis en place aussi un schéma directeur des systèmes d'information. C'est-à-dire que avec ces trois aspects-là, on rejoignait tout ce qui était politique, accompagnement et puis technique, stratégie.
D'accord. Alors, on reviendra sur l'Adulact tout à l'heure quand on parlera du label territoire numérique libre, parce que c'est dans l'actualité, mais ça sera plutôt vers la fin. Donc là, on a vu donc, dans cette première partie de notre échange le début, les raisons, la décision politique de priorité au logiciel libre, les principaux enjeux pour lesquels c'était. Mais quand on prend une telle décision, forcément, à un moment, on nous dit « Attendez, ça ne va pas être si simple que ça, on va parler de problèmes ou de freins ». Donc, quels ont été les freins qui ont été invoqués ou les points de vigilance qui ont été invoqués, soit par l'aspect technique, soit par l'aspect politique, pour cette migration vers le logiciel libre ?
Alors, ils ont été invoqués à ce moment-là, mais ils le sont toujours. Les freins sont toujours très prégnants et puis ils reviennent très très souvent, hein, parce que c'est un combat de tous les instants et puis dans la durée pour vraiment instaurer tout ça. Le premier frein, alors, d'abord, il faut tendre le cou à une idée quelque chose qu'on entend très souvent. Moi, je choisis le libre parce que le libre, c'est gratuit. Et ça, vraiment, on s'inscrit en faux depuis le début, hein, au niveau de la DULAC, puis je pense qu'au niveau de toutes les associations aussi. Parce que le libre, ça a un coût. Ça a le coût au moins du premier développement. Ensuite, bon, on peut mutualiser. Et puis, ça a un coût pour les communes ou pour les organisations, enfin, pour les entreprises qui vont y aller. C'est que c'est le coût du changement. Le changement est extrêmement important entre une base installée, qui est souvent une base propriétaire, pour passer justement à du libre avec c'est un petit peu différent. Et puis, donc, c'est ce changement à la fois au niveau technique, mais aussi auprès des utilisateurs, puisqu'il faut conduire ce changement auprès des utilisateurs, ce changement a un coût. Et donc, à un moment donné, il faut se poser la question de le faire et d'investir dans ce changement, et après de partir et de poursuivre dans la durée. Mais ce changement a un coût et il ne faut pas le nier. Donc ça, c'était la première idée qui revient toujours et dans laquelle on s'inscrit en faux.
D'accord.
Alors ensuite, dans les freins, bien sûr, c'est qu'on ne part pas de zéro. Si on partait de zéro, ça serait plus facile, mais là, on part de quelque chose. Il y a déjà des logiciels, il y a des boîtes noires, il y a des habitudes, il y a des usages, et ça fonctionne tant bien que mal, mais ça fonctionne. Et donc, ce qu'il faut étudier, c'est planifier ce qu'on va renouveler ou ce qu'on va mettre en place et qui va être du logiciel libre. Et ça, c'est plus facile à le faire sur les nouveaux logiciels à installer. C'est plus facile. Bon, je prends l'exemple, par exemple, on n'avait pas de logiciel de gestion des élections. Tout de suite, on a choisi OpenElect, donc de la suite OpenMairie, parce que ça nous paraissait évident et ça nous paraissait vraiment un endroit dans lequel on pouvait commencer à mettre en place du libre. Aujourd'hui, les agents qui utilisent OpenElect sont très, très, très contents. Donc voilà, ça c'est un premier frein, c'est le système d'information qui existe. Il y a un deuxième frein, c'est la commande publique qui est toujours invoquée, c'est-à-dire oui, mais c'est compliqué dans la commande publique, comment on peut, si on définit des besoins, ça sera forcément en faveur, enfin, ça sera forcément le logiciel propriétaire qui sera gagnant et on n'arrive pas à faire passer le logiciel libre, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a des façons de définir dans la commande publique le fait qu'on veut du logiciel libre, soit en disant qu'on veut des formats ouverts, on veut se baser sur des formats ouverts, ou alors on veut accéder au code source. Donc aujourd'hui, on sait demander des logiciels libres et on sait les mettre en concurrence avec du logiciel propriétaire. Et puis après, il y a une façon aussi très simple de faire, que nous on a beaucoup utilisé, c'est qu'on choisit un logiciel libre, c'est-à-dire qu'on a la volonté politique de choisir un logiciel libre, et ensuite on met en concurrence le service de maintenance ou d'évolution dont on a besoin. C'est ce qu'on a fait pour OpenElect en fait.
Ça, c'est
voilà, donc aujourd'hui ça existe et c'est possible.
C'est important ce que tu dis parce qu'effectivement il y a beaucoup de mécompréhension par rapport à la commande publique. Et on va rappeler par rapport à ce que tu disais, le fait de choisir un logiciel libre et mettre en concurrence après au niveau du service, que le Conseil d'État a validé ça en 2011, de mémoire, je dis ça, sur une décision importante qui concernait un ENT, donc un espace numérique de travail. Et je crois aussi que l'État lui-même a un document qui, alors je ne me souviens plus du titre, mais en tout cas un guide qui explique en fait comment effectivement faire des appels d'offres ouverts au logiciel libre. Donc on précise, oui, septembre 2011, concernant le ENT Lili. On précise, je rappelle, sur le webchat. Donc vous pouvez venir sur le webchat de la radio ou un causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez. Donc ça, voilà, la commande publique peut être utilisée, effectivement. Et on va rappeler qu'actuellement, c'est plutôt l'inverse qui est fait par l'État, notamment l'éducation nationale, mais tu en parlais tout à l'heure, et également au ministère des Armées. Mais en tout cas, la commande publique peut être un outil parfaitement puissant pour mettre en œuvre une priorité au logiciel libre. Alors justement, comme je suis sur le salon, je vois qu'il y a une petite question, même si on va poursuivre après les freins, mais je vais la poser comme ça immédiatement. Donc on nous demande, est-ce que l'offre logiciel, service, entreprise du libre te paraît actuellement suffisante? Et pour compléter la question, donc quel logiciel ou application manquerait, selon toi, sur le marché actuellement?
Ah, alors, évidemment, sont les logiciels métiers. Hein. Dans le système d'information, on a quand même des blocs qui restent propriétaires. Alors, quand je dis les logiciels métiers, c'est le gestion des ressources humaines, gestion des finances. Là, aujourd'hui, ça manque parce que, alors, pour en avoir discuté souvent avec au sein de la DULACT, c'est que en fait, il faut, en termes d'évolution, il faut vraiment suivre la réglementation et c'est très, très contraignant. Et donc, ça, aujourd'hui, les prestataires qui existent sur le marché, qui se partagent le marché, le font très bien. Et c'est compliqué de rentrer enfin, en concurrence et de faire la même chose, quoi. Donc c'est vraiment les gestion des ressources humaines, gestion des finances. Alors après, il y a des choses, par exemple, comme gestion de l'urbanisme, sur lequel aujourd'hui il y a des alternatives. Il y a justement OpenADS, hein, toujours de la suite OpenMairie, qui est une alternative crédible justement et qui commence à s'installer dans les communes.
On va juste préciser que...
C'est le cas chez nous parce que chez nous, les gens du service urbanisme ont voulu poursuivre avec leur logiciel, mais il y a des communes, qui j'en connais sur l'Isère, qui ont installé justement ce logiciel de gestion d'urbanisme.
Alors, on peut juste préciser que donc OpenADS, c'est la gestion de l'autorisation du droit des sols. ADS, c'est-à-dire autorisation du droit des sols.
Autorisation du droit des sols.
Oui, voilà, exactement. Donc voilà, je surveille s'il y a d'autres questions et on va donc continuer sur les freins. Je suppose, en tout cas, ça fait partie de la liste, que le besoin de nouvelles compétences est un frein qui est souvent mis en avant et ça doit être encore plus prégnant pour une structure dans la collectivité qui a finalement une seule personne en charge de l'informatique. Alors, donc, est-ce que c'est un vrai frein? Comment vous avez géré ça dans une petite structure qui a une personne en charge de l'informatique?
Alors, quand il n'y a qu'une seule personne en charge de l'informatique, il y a beaucoup de choses qui sont sous-traitées, en fait. Hein. Donc, quand on a besoin d'un logiciel, donc on prenait le schéma classique, définition des besoins, passant le marché, bon, etc. Et c'est l'informaticien qui va piloter ça. L'informaticien, il a une formation qui lui permet d'appréhender ces technologies-là, mais aussi des technologies du libre. Même si maintenant dans les universités, on forme assez peu au libre et on forme plutôt au logiciel propriétaire. Ceci dit, un informaticien pour moi, c'est quelqu'un qui est en veille permanente au niveau technique et qui est capable de se former ou d'appréhender d'autres technologies. Il n'est pas lié à une technologie ou à un système propriétaire. Donc ça, c'est le métier informatique qu'il faut justement concevoir un peu différemment, accompagner certainement hein, le mien, enfin notre RSI, là, Nicolas, il s'est formé tout seul en fait, hein, il s'est par curiosité, il s'est formé, bon voilà. Donc ça c'est pour moi c'est pas un frein. Et en plus, après, il faut s'appuyer sur l'écosystème du libre. L'écosystème du libre, il est quand même très, très riche aujourd'hui. Il y a les associations, donc l'April, la DULACT, bon, etc. Il y a ces communautés qui s'entraident, en fait, c'est quand même un peu le principe du libre. Après, il y a les entreprises du libre, il y a le Conseil national du logiciel libre, il y a l'État qui, lui, a pas mal avancé aussi sur des outils comme le SOC, donc le interministériel des logiciels libres, le SILL. Donc il y a beaucoup de choses qui existent pour un technicien qui justement doit se former en permanence. Il y a tout ce qu'il faut.
D'accord. Écoute, on va poursuivre cette très intéressante discussion et il y a des commentaires vraiment élogieux sur le salon web de la radio, mais on va faire une petite pause musicale. Donc on va continuer notre voyage au Japon avec un morceau choisi encore une fois par Eric Frodin. Nous allons écouter Enchanté 3 Celesta par Péritune. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Thank you.
venons d'écouter Enchanté 3 Célesta par Péritune, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion donc avec Claudine Chassagne, adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-d'Uriage, en Isère. Et nous parlons de la migration de la commune vers le logiciel libre. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez sur le salon. Donc juste avant la pause musicale, avec Claudine, nous parlait d'un certain nombre de freins invoqués lors de l'annonce d'une migration vers le logiciel libre. On va poursuivre ces freins avant de parler un petit peu de stratégie de migration et quelques exemples. L'un des freins dont tu avais commencé un petit peu à parler en tout début d'émission, c'était en fait l'habitude des facilités offertes par les GAFAM, donc ces géants du web, dont il faut arriver à se défaire.
Oui, tout à fait, parce que, alors, c'est tellement ancré en fait dans les habitudes de travail qu'on parle pas de traitement de texte, par exemple on parle de Word. Ce qui est toujours étonnant parce que en fait on peut avoir des logiciels de traitement de texte autres. Et ça, c'est ces habitudes de travail, ce sont les plus difficiles à changer parce que les agents savent à peu près les utiliser. Je reviendrai là-dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas bien les utiliser, mais donc ils savent à peu près les utiliser. Par rapport à ce qu'on va leur mettre comme alternative libre, par exemple, ils vont trouver que ils sont en régression, que ce n'est pas les mêmes fonctionnalités, que voilà. Ils ont un peu l'impression que c'est le logiciel au rabais. Ça, c'était surtout vrai aussi quand, avant LibreOffice, donc il y a eu la période OpenOffice, il y a une dizaine d'années en arrière, qui était certainement moins mature, et où là, les agents ont véritablement eu l'impression d'une régression. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai. LibreOffice est quand même quelque chose de complètement évolué, qui possède les fonctionnalités de base dont ont besoin les agents, qui n'utilisent pas forcément toute la batterie de fonctionnalités offertes par Microsoft. Et donc, le plus difficile, c'est effectivement de convaincre qu'on a des outils qui sont aussi bons maintenant. Et que moyennant une formation, parce qu'il y a quand même des petites différences, ils vont retrouver ces compétences-là. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore bien ancré dans la tête des gens, c'est de se dire « Ah mais moi, je veux pas de ça parce que c'est au rabais ». Alors ça, c'est aussi, par exemple, dans nos écoles, le problème qu'on a avec les enseignants qui sont... qui ont ces outils depuis longtemps et qui ont du mal et qui sont très réticents à les changer.
D'autant plus qu'ils ont sans doute, ils sont déjà très occupés, ils n'ont pas forcément le temps de se reformer à des nouveaux outils, je suppose.
Complètement, complètement. Et ça, on le comprend. Et puis, ils sont souvent dans l'urgence quand il faut démarrer le matériel, etc., pour leur classe. Donc là, nous, on est en train de travailler vraiment sur le parc informatique des écoles pour essayer justement de trouver le bon compromis.
Et à l'inverse, on en parlait la semaine dernière, je crois, il y a des enseignants qui ont profité notamment de la période de confinement pour s'auto-former à l'usage de logiciels libres, notamment pour les cours, enfin les échanges à distance, les visioconférences, les audioconférences. Mais effectivement, l'école est un sujet en tant que tel qu'on traitera sans doute assez rapidement dans Libre à vous. On va continuer sur les freins. Donc pendant la préparation, tu me parlais aussi de la participation à la communauté. Parce que souvent, effectivement, quand on parle de logiciels libres, on se dit que ce n'est pas uniquement utiliser des logiciels, mais c'est contribuer à une communauté. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc ça, c'est un frein. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît ?
Alors, c'est pas forcément obligatoire, effectivement. Et puis, là encore, il y a différents niveaux. En fait, il y a trois profils dans une communauté. Il y a l'utilisateur qui va chercher son logiciel libre et qui l'utilise couramment sans forcément connaître ce qu'il y a sous le capot. Il y a l'initiateur, c'est celui qui va peut-être, qui va alors au niveau d'une commune par exemple, initier un développement ou au niveau d'une grande collectivité. On a des grandes collectivités aujourd'hui qui initient des développements et puis qui vont être initiateurs par rapport à ça. Et puis il y a les contributeurs, donc c'est-à-dire celui qui a les connaissances et qui va contribuer justement au développement, à l'évolution du logiciel libre. Donc il y a ces trois profils. On peut très bien comprendre que dans une commune où il n'y a qu'un RSI, on ne va pas forcément être dans le profil initiateur ou contributeur. On peut être dans le profil utilisateur. Mais en fait, moi, je me rends compte que même petit à petit, donc avec le technicien qui s'est formé et puis qui s'est bien approprié ces technologies, eh ben, il contribue en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se développer dans le temps, mais au départ, une commune peut très bien être simplement utilisatrice, comme une commune ou même un particulier, sans forcément participer davantage.
Tout à fait. Mais je suppose, alors, enfin, c'est une question, je suppose que, comme tu as dit tout à l'heure, que tu avais affaire à un vrai informaticien, donc c'est quelqu'un donc, qui se forme tout au long de sa vie, je suppose que lui, ça doit lui faire quelque part plaisir de se dire qu'il peut contribuer, parce que souvent dans l'échelle privateur, en fait, on est contraint par les choix de l'éditeur, par les bugs, etc., alors que dans le logiciel libre, justement, il y a cette possibilité de contribution. Donc quelque part, je pense que, c'est une question, est-ce que lui, ça lui apporte quelque chose d'un point de vue, je dirais, professionnel et même personnel, cette possibilité de contribution?
Ah oui, tout à fait. Je pense que je crois que cette démarche lui a bien plu. Enfin, lui qui ne la connaissait pas forcément au départ, je pense que ça lui a bien plu en termes de curiosité informatique de ce qu'il y a sous le capot et puis de pouvoir contribuer. Donc voilà, c'est tout à fait positif pour lui, je pense. Oui.
D'accord. Alors, dernier frein que tu as évoqué pendant la préparation, c'est l'expression « le libre, c'est pour les geeks ». Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
Et oui, parce que c'est vrai que le libre, alors, peut-être que là aussi, nous, au niveau des associations, il faut quand même qu'on travaille bien là-dessus, parce que moi, je vois même au niveau de la DULAC, souvent, je le dis au sein de la DULAC, c'est que quelquefois, on parle à des initiés. Et du coup, ça écarte un petit peu les volontés d'aller dans ce modèle-là, qui est un modèle pas du tout, enfin pas forcément technologique, mais qui est un modèle politique pour moi. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un bout de chemin à la fois du côté des associations pour essayer d'attirer beaucoup plus de monde dans ce modèle-là. Et puis après, bon, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de vulgarisation qui a été faite, hein, mais je pense à l'April, à toutes ces associations où il y a énormément d'informations sur le site pour tout le monde. Et puis il y a des accompagnements même pour les associations, pour les habitants, je pense ce qu'on appelle les chatons, hein, les hébergeurs alternatifs. Toutes les associations comme Colibri, etc., qui essayent justement, qui font tout ce travail d'accompagnement. Le CNFPT, donc le Centre National pour la Fonction Publique Territoriale, a maintenant inscrit des formations en logiciel libre. Il y a le label, justement, Territoire Numérique Libre, pour faire connaître les communes qui se sont lancées et puis qui mettent petit à petit ce mouvement en marche. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est plus réservé qu'aux geeks, je pense, qui est en train de se démocratiser, qui va bien avec le changement de comportement qu'on appelle un peu nos voeux par rapport à la transition actuellement. Donc je trouve qu'on est dans une période tout à fait propice pour aller plus loin. Mais c'est vrai que ça reste encore, alors au niveau professionnel, hein, dans les entreprises ou dans les communes, ça reste encore quand même quelque chose comme réservé aux geeks, quoi. Et voilà. Donc, mais ça, petit à petit, il faut le changer. C'est en train de changer pour moi. Et on est dans la bonne période pour le faire changer.
Oui, tout à fait. Ça évolue. On va préciser donc peut-être les sites web. Tout à l'heure, tu as parlé donc des chatons. Hein, ces structures qui proposent des services libres et éthiques. Donc, pour les retrouver, vous allez sur chatons, donc chatons.org. Donc, vous allez retrouver tout un groupe de structures, dont l'April et d'autres, qui proposent différents services. Tu as parlé du territoire numérique libre. Donc, je pensais en parler à la fin, mais on va en parler tout de suite. Donc, c'est un label qui permet, en fait, qui est donc donné notamment par la DULACT, qui est gérée par la DULACT avec d'autres structures comme l'APRI, le Conseil national du logiciel libre, qui permet de valoriser les activités, les initiatives logiciels libres dans les collectivités. Donc c'est un label de 1 à 5 niveaux. Et donc Saint-Martin-du-Riage a pour l'instant le niveau 3 sur 5. Et je précise donc que les collectivités peuvent candidater pour l'édition 2020 du territoire, du label des territoires numériques libres jusqu'au 15 octobre 2020 à minuit. Le site web, c'est territoire-numérique-libre.org, mais vous retrouvez évidemment les références sur causecommune.fm et sur april.org. Et juste, tu parlais des évolutions, juste une petite anecdote personnelle, je dois faire bientôt une téléconsultation avec un médecin et j'ai eu l'agréable surprise que le médecin me propose d'utiliser Jitsi Meet, donc un logiciel libre de visioconférence. Et on a reçu l'auteur, le créateur dans Libre à vous, donc j'étais très content que cette personne, avec les arguments de données personnelles, etc. Voilà. Donc voilà, c'était un petit point perso. Donc là, il nous reste, je regarde, oula, le temps passe, il nous reste même pas 10 minutes. Donc on a vu les points essentiels qui ont expliqué les enjeux, en tout cas importants, sur la migration, les freins invoqués. Tu as parlé tout à l'heure en introduction d'avancer petit à petit dans cette migration vers le logiciel libre. Est-ce qu'on pourrait faire le focus maintenant sur peut-être un ou deux exemples dans les 7-8 minutes qui nous restent, justement sur ce qui a été mis en place depuis 2014?
Oui, alors, j'ai pris deux exemples assez différents pour montrer que c'est pas gagnant à tous les coups, que j'explique toujours, mais c'est pas pour ça qu'il faut se désespérer et ne pas poursuivre. Donc il y a ce renouvellement du logiciel de gestion de l'urbanisme. Donc je vous ai dit, pour les nouveaux logiciels à mettre en place, là il n'y a pas de souci, on choisit du libre quand le libre existe, et donc là il n'y a pas eu de problème. Donc il y a eu gestion des élections, gestion du courrier, hein, open demand, voilà, un certain nombre de choses qu'on a pu mettre en place parce que c'était des besoins nouveaux. Après, on s'est heurté justement au renouvellement des logiciels existants. Donc on était obligé aussi de renouveler par exemple notre logiciel de gestion des finances, donc là il n'y a pas eu photo, on n'avait pas d'alternative libre, on est parti dans le même logiciel propriétaire. Voilà. Et alors, pour la gestion de l'urbanisme, le problème s'est posé. Donc, on a fait une analyse vraiment des deux produits qui étaient en liste, c'est-à-dire celui qui était utilisé et puis qu'il fallait faire évoluer, donc qui était propriétaire, et puis OpenADS. Et donc, on a fait venir les prestataires, on a regardé, on a testé, bon, etc., avec la direction de l'urbanisme, avec le service de l'urbanisme. Et puis finalement, à la fin, le service de l'urbanisme a eu un petit peu peur d'aller vers de l'inconnu, et a préféré rester sur ce qu'il connaissait. Et là, on a laissé quand même, nous, le dernier mot, donc nous, les numériques, le numérique, on a laissé le dernier mot quand même à la direction, au service métier et à l'élu en charge de l'urbanisme. Et là, bon, on ne s'est pas battu contre ça. Donc, le logiciel de gestion d'urbanisme a été renouvelé donc au niveau logiciel propriétaire. Par contre, c'est là où moi, je suis intervenue pour dire attention, parce que le système d'information géographique est complètement imbriqué dedans. Et à ce moment-là, il faut qu'on le sorte. Donc, on va en prendre un autre qui est libre, qui est QGIS, donc le logiciel QGIS. Et on va faire en sorte qu'il puisse communiquer avec ce nouveau logiciel de gestion d'urbanisme, mais en même temps qu'il puisse servir à d'autres services, que sont les services techniques ou les élus quand ils font des présentations dans cartographie, des choses comme ça. Et donc ça, on a travaillé là-dessus pour dissocier les deux et finalement essayer d'avoir justement un système d'information géographique libre, alors que ce n'était pas le cas jusque-là. Donc voilà, c'est là où je dis, il faut pas, on n'est pas gagnant à tous les coups, parce que il y a quelquefois des réticences métiers qu'il faut entendre et qui sont assez prégnantes. Par contre, voir comment on peut quand même en tirer parti.
Et avancer un petit peu, donc là en l'occurrence avec l'installation d'un système d'information géographique libre qui est donc QGIS.
Voilà.
Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple pour terminer, tu voulais choisir quel exemple ?
Alors l'exemple, c'est la migration vers la bureautique libre. Alors celui-là, je l'ai gardé pour la fin du mandat, parce qu'en fait, il était inscrit dès le début du mandat dans le planning, mais il y avait énormément de réticences et puis il y avait toujours d'autres priorités. Donc, on a attendu de mettre en place quelques logiciels, de montrer que ça fonctionnait quand même, que c'était pas des uluberlus, bon, etc. Donc, petit à petit, on a acquis une confiance quand même de la part des services. Et puis donc, en 2019, moi, j'ai demandé à vraiment qu'on fasse cette migration donc vers la bureautique libre. Alors, je l'ai inscrite dans le budget parce que on a demandé un accompagnement par un prestataire, donc qui est OpenGo. Je le cite parce que on a vraiment été très contents. Donc, qui nous a accompagnés, mais essentiellement pour la conduite du changement, pas pour l'aspect technique, parce que l'aspect technique dans la migration vers la bureautique libre, c'est 20%. Par contre, c'est 80% d'accompagnement des agents et de conduite du changement. Donc, j'ai pu l'inscrire dans le budget, budget 2019, et on l'a démarré donc en 2019 avec, alors on s'est aperçu très rapidement qu'en fait les agents allaient être gagnants là-dedans, d'abord parce que ils n'avaient plus de formation au traitement de texte depuis longtemps, donc ils ne savaient plus trop comment l'utiliser, et ça nous faisait beaucoup d'incidents au niveau de l'assistance informatique. Beaucoup de questions sur les logiciels de traitement de texte en particulier. Donc on s'est dit qu'on allait faire de la formation et qu'il serait forcément gagnant. On s'est aperçu aussi qu'il n'y avait pas de modèle de document donc formalisé. Donc on allait profiter pour en faire. Donc dans ce projet de migration vers la bureautique libre, on a mis à la fois présentation politique et technique de ce projet-là, formation, accompagnement spécifique pour ceux qui avaient des difficultés à migrer leurs propres données. Donc on a fait intervenir le prestataire dans des services, par exemple le service de la police qui avait beaucoup de données au niveau .doc, voilà. Et puis l'élaboration des modèles. Et tout ça, et donc on a fait des formations, on a formé tous les agents par groupe de 10 en les mélangeant, et ça a été très très bien apprécié parce que c'est vrai qu'on a un peu trop tendance à penser que l'informatique c'est intuitif et que c'est acquis une fois pour toutes et qu'après on n'a plus besoin de former ou d'accompagner les agents. Et en fait, les agents, eh ben, on s'aperçoit qu'au quotidien, ils perdent beaucoup de temps avec l'outil informatique, soit parce qu'ils ne savent pas faire, soit parce qu'ils débrouillent comme ils peuvent, etc. Et donc ça a été vraiment l'occasion de former les agents, qui d'ailleurs en redemandent aujourd'hui, ils nous demandent des formations de perfectionnement, en particulier sur calque, ou voilà. Et donc on va continuer. Mais ça, c'est... Là, on est en train d'évaluer parce que donc le projet, il a connu un petit peu de retard et de coupure à cause de la crise sanitaire.
Oui, bien sûr.
Mais là, on va le terminer donc fin 2020 et on va faire une évaluation de ce projet-là. Mais il y a vraiment un retour très très positif de la part des agents. Et donc ce qu'on attend maintenant, c'est le moment où on va enlever complètement les outils de Microsoft pour qu'il n'y ait plus que les outils de LibreOffice sur les postes de travail.
D'accord. Bah écoute, à cette occasion-là, on reviendra vers toi pour refaire un point. On va juste préciser donc que le prestataire, la société prestatrice pour le conduit du changement, donc c'est OpenGo, donc opengo.fr de Marie-Jo Cop-Castinel, si je n'écorche pas son nom. Il est toujours intéressant de citer les prestataires qui font bien leur travail dans le monde du logiciel libre. Claudine, en moins de 2 minutes, parce que là, on arrive à la fin de notre sujet, est-ce que tu pourrais nous donner les éléments clés à retenir, voilà, en moins de 2 minutes de cet échange?
Eh ben, alors donc, c'est le triptyque élu DGS-RSI. Ça, c'est vraiment important pour asseoir une vraie politique, une vraie stratégie. Et puis, de se dire qu'il faut voir loin, il faut avoir une cible qui est ambitieuse, et puis avancer petit à petit, avec des allées, avec des retours peut-être en arrière, mais on avance petit à petit. Et puis se dire que c'est à la portée de tout le monde. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près un tiers des communes qui utilisent des logiciels libres, qui utilisent comme ça au quotidien. Mais il faut aller plus loin, c'est à la portée de tout le monde, il faut s'appuyer sur l'écosystème du libre, il faut discuter avec les autres communes, mais voilà, c'est à la portée de tout le monde et il faut oser y aller, quoi.
Bah écoute, ça fait très plaisir. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire un point, peut-être avec justement le fameux informaticien qui s'est dû se former au Libre. En tout cas, voilà, nous étions donc avec Claudine Chassagne, qui est adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-d'Uriage, donc en Isère, en charge entre autres du numérique. Je rappelle que les collectivités peuvent peuvent candidater au label Territoire numérique libre jusqu'au 15 octobre 2020 à minuit pour valoriser leurs actions logicielles libres. Je rappelle qu'il y a 3 niveaux, il y a 5 niveaux de label et ça permet aussi de voir les évolutions. Écoute, je te remercie. Je te précise que les commentaires sur le salon web de la radio sont particulièrement élogieux pour les propos que tu as tenus. Et je tiens aussi à te remercier personnellement parce que c'est sans doute la préparation la plus facile qu'il y a eu pour l'émission Sujet Long. C'est assez rare d'avoir une telle qualité de préparation par les personnes invitées. En tout cas, tu as été celle qui a été le plus loin dans la préparation. Donc, je t'en remercie. J'aurai grand plaisir à te revoir à nouveau au téléphone pour parler de logiciels libres et aussi de données publiques parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça fait aussi partie des choix politiques de la ville.
Est-ce que je peux juste compléter en disant que tout ça est dans un dossier qui est en cours de publication?
Ah oui, vas-y, j'allais oublier justement. Vas-y.
Aux éditions territoriales et qui va paraître à l'automne. Là. Voilà.
Donc effectivement, les collectivités, les éditions territoriales, hein, c'est territorial.fr, c'est en gros c'est la maison d'édition des collectivités territoriales. Donc Claudine a rédigé un dossier qui donc va paraître bientôt, justement relatant ce retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Écoute, Claudine, je te souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt.
Merci.